Willkommen. Willkommen aus Oswald. Welcome to Oswald. Benvenuto al Oswald. J'ai un peu inventé. Bienvenue à Oswald. Ça va? Vous avez eu le temps de saluer quelqu'un? Qui est content que Rachel ait pu prendre une douche? Ouais. Moi aussi. Et je pense que Bastien, il aurait dû marquer ça en sujet de reconnaissance. Ça nous aurait peut-être paru un petit peu bizarre, mais on aurait pu s'associer à sa joie, effectivement. Enfin, moi, je ne comprends pas. Hein. Ma femme me dit, chaque fois que je ne prends pas une douche pendant une semaine, elle me dit, ah, vas-y. Et tout. Quoi? Vous prenez une douche plus souvent, vous? Non, je rigole. Il est bon de se laver. Et ma femme dit amen. Ma femme, ça n'a rien à voir avec le message, mais c'est pas grave, on est entre nous. Hein. Vous ne le dites pas ailleurs, hein. D'accord? Ma femme, au début, quand je l'ai rencontrée, elle prenait 2 à 3 douches par jour. Amen, il y en a qui disent amen. Moi, je ne comprenais pas. Vous allez peut-être me dire je suis crâne, mais des fois, je ne me lavais même pas pendant la journée. Des fois, je me lavais le matin, le lendemain. C'est pas grave, ok, rien à voir avec le message. En tout cas, je suis très content parce que aujourd'hui, j'ai le privilège de parler d'un thème qui me tient à cœur et je pense qu'il peut nous parler à chacun. Et je crois que ça va nous parler à chacun. Mais d'abord, je voulais vous donner les salutations de Raymond et Josiane, qui sont, eux, ils ne sont pas descendus au Sénégal. Ils sont allés aussi dans une destination exotique, à Wissembourg, pour aller faire du bien à une église, enfin à Dürrenbach, c'est ça plus exactement ? Dürrenbach, donc ils vous saluent bien. Et croyez-le ou non, dans 8 semaines, qu'est-ce qui se passe dans 8 semaines ? Pâques, bien vu, ouais. Déjà, dans 8 semaines, on aura la joie de célébrer Pâques et on est en train de préparer des choses vraiment parce qu'on a à cœur d'amener le message de Jésus, l'évangile, la bonne nouvelle aux Ostvaldois. Et donc, du coup, on est en train de travailler. Si vous avez des idées, des choses à proposer pour aller dans ce sens-là, en fait, on veut vraiment en faire un événement central pour que l'évangile soit communiqué. Mais on s'est dit aussi, c'est important que nous aussi, on soit affermis dans notre foi et dans la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on a préparé une série qui va nous conduire jusqu'à Pâques sur 8 semaines. Et la série va s'appeler Jésus. Ça va, c'est facile à retenir? Et du coup, on va aller dans de la théologie. Ouais! Qui est content? Pas grand monde. Mais c'est important des fois de comprendre, mais surtout dans de la théologie pratique. Comprendre quelle différence ça fait dans ma vie. Parce que si c'est juste de la théologie et de la connaissance, ça ne nous sert pas à grand-chose. On veut comprendre pourquoi est-ce que la divinité de Jésus, ça a quelque chose à voir avec ma vie. Pourquoi est-ce que la soumission du Fils au Père a quelque chose d'important pour ma vie. Pourquoi est-ce que le caractère de Jésus, sa douceur, etc., a quelque chose d'important pour ma vie. Donc on va vraiment s'arrêter, on va prendre un bon moment pendant 8 sessions pour aborder tous ces sujets-là. Je me réjouis parce que je crois que ça va vraiment nous édifier, nous fortifier, et je vous encourage dès maintenant à être présents. Donc dès la semaine prochaine, c'est Raymond, notre pasteur, qui introduira cette série. Vous êtes contents? Pas tout le monde, hein. J'essaie de voir si ça va. Mais ce matin, je vous parle d'une autre chose. C'est pourquoi Jésus est-il venu? Certains vont dire qu'il est venu pour sauver le monde. Et d'autres vont dire qu'il est venu pour me sauver. Si on est un peu plus postmoderne, aujourd'hui, c'est un peu plus tourné vers moi. Quelle que soit la situation, les deux sont vrais. C'est vrai, il est venu pour sauver le monde et il est venu pour me sauver. Et il y a une raison qui est plus globale, l'autre qui est plus spécifique. Mais ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête pour qu'on redécouvre pourquoi Jésus il est venu. Et ce qu'on est sur le point de voir, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup plus que simplement, même si c'est énorme, nous sauver, me sauver, sauver le monde. Ça marche ? Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci Seigneur parce que tu veux maintenant disposer nos cœurs Seigneur à ta parole. Seigneur que tu ouvres nos oreilles Seigneur, que nos cœurs soient prêts à recevoir ce que toi par ton esprit, tu veux communiquer à chacun d'entre nous. Saisis-toi de ma bouche, Seigneur, et parle au cœur de chacun. C'est toi seul qui connais vraiment ce qui passe au plus profond de chacun de nous et ce dont nous avons besoin ce matin. Alors nous sommes venus avec une attente, Seigneur, c'est que tu nous parles. Nous sommes venus avec une attente, c'est que tu viennes toucher nos cœurs. Nous sommes venus avec une attente, c'est de nous approcher de toi. Alors ce matin, Seigneur, viens, saisis-toi de ces mots, saisis-toi de cette parole, et peut-être que ce n'est qu'un mot, Seigneur. Peut-être que c'est une phrase, peut-être que c'est un verset, peut-être c'est une image qui va toucher, Seigneur. Quoi qu'il en soit, Seigneur, nous te confions tout ce message et nous te demandons de venir nous interpeller, nous toucher, afin que nous soyons à la fin de ce message plus proches de toi et que nous comprenions encore un peu plus, Seigneur, qui tu es, ce que tu veux pour nos vies et de quelle manière, Seigneur, tu veux vraiment nous permettre d'avancer avec toi, régner avec toi dans ce monde aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rentrer dans un lieu, de vous retrouver entouré de personnes et de vous dire « qu'est-ce que je fais là ?» J'espère que ce n'est pas la question que tu te poses maintenant. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Et encore très récemment, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est toujours rempli d'assurance. Pour certaines choses, oui, je suis plein d'assurance, mais pour certaines choses, je suis un peu plus fébrile. Et on est rentré, vous savez, dans l'entente. Donc, c'est un rassemblement d'églises, etc. Et puis, moi, je suis pasteur là depuis un an, et puis j'arrive, je me retrouve au milieu d'un cercle de pasteurs qui sont tous au milieu dans leurs églises, etc. Et ils vivent leurs choses, et puis moi, je suis là, je ne sais pas trop quoi faire. Alors, à ce moment-là, je me mets un peu de côté, et puis je vais trouver une personne qui a l'air un peu paumée comme moi, et puis je parle avec elle. D'autres personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Parce que parfois, dans certaines situations, je peux manquer d'assurance. Mais une autre histoire aussi que je voudrais vous raconter, c'est une fois, je me suis, bon, je vais le dire comme ça. Ouais. J'ai été invité par mon directeur de banque en octobre 2007, pardon. Il partait en retraite et il faisait une fête, comme ça se fait pour un départ en retraite. Et donc, on était 32 collègues, il avait invité les 32 collègues à venir. C'était une grande célébration. Et voilà. Et donc, on vient à cette fête. Et on arrive et je commence à me dire, OK, moi, je suis Mathieu, j'étais déjà dans l'église. Je faisais des choses, je faisais la louange, etc. Mais j'étais fébrile dans ma foi. Je manquais d'assurance à ce moment-là et tout. Je me suis dit, bon, je voudrais quand même être une lumière dans ce milieu. Je voudrais être différent que tout le monde pendant ce temps-là. Et puis, j'arrive à la soirée, puis bam, la musique est clinquante, les tables qui sont bien et tout. Puis, je me mets à une table avec des collègues et tout. Puis, on commence à me servir un peu de vin et tout. Puis, je commence à boire un petit peu. Puis là, on commence à bien rigoler, les blagues un peu plus déplacé, commence à se faire et tout. Puis là, le Mathieu qui était rempli d'avoir envie d'être une lumière commence à être un petit peu atteint par les circonstances et tout. Et puis je commence à rentrer dans ce jeu-là, à me conformer à ce qui se passe finalement. Parce que je me suis dit, c'est plus facile de rentrer dans ces blagues, c'est plus facile de rentrer dans ce genre de choses. Je commence à boire, etc., à fêter, au point où à la fin, je ne me souviens plus de cette soirée. Je ne me souviens plus de la fin de cette soirée. Je vais vous passer les détails, mais je ne me rappelle plus. Et le truc qui est terrible, c'est que c'était une soirée pour fêter et célébrer la carrière d'un homme et tout. Et quand on va à ce genre de soirée, normalement, ce qu'on ramène, c'est on ramène un cadeau. On ramène quelque chose comme ça pour dire « ouais, bravo, félicitations, tu as fini et tout ». Et moi, je ne me rappelais plus de cette soirée et le cadeau, ben, au lieu de l'apporter, il est resté dans le coffre de ma voiture. Pourquoi je raconte cette histoire ? Ces histoires de réalité. Parce que pendant cette soirée, j'ai oublié qui je suis. Je suis rentré, j'avais plein d'envie et tout, mais je ne savais pas vraiment qui j'étais. Et du coup, je me suis conformé. Je suis rentré dans le jeu, j'ai fait les choses, etc. Et j'ai oublié qui j'étais. Et la deuxième chose, c'est que j'ai oublié la raison pour laquelle je suis venu. J'étais venu pour reconnaître la carrière d'un homme, apporter un cadeau, et je l'ai oublié dans le coffre de ma voiture. C'est ballot. Jésus, lui, il n'a jamais fait ça. Lui, il a été envoyé du ciel avec un cadeau. Il est venu faire la fête ici avec nous. Lui, il n'a pas oublié ce cadeau. Il ne l'a pas laissé comme moi dans la voiture. Il est venu, il est descendu. Et il savait qui il était et il savait pourquoi il est venu. Jean 1, 10 nous dit « Celui qui est la parole était déjà dans le monde puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Les gens ne savaient pas qui il était. Les gens ne savaient pas qu'il était le sauveur. Mais lui, ce n'était pas un problème pour lui. Regardez Jean 18, 37. Quand il est face à Pilate, et Pilate il lui dit « Attends, les gens ils disent que tu es roi. Es-tu donc roi ?» Et regardez comment Jésus rempli d'assurance répond. « Tu le dis toi-même, je connais mon identité. » Je suis roi si je suis né et je connais ma mission. Et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Jésus savait qui il était et pourquoi il est venu. Et il ne s'est pas manqué, lui. Si tu veux un titre pour ce message ce matin, lui, pardon, il connaissait son identité, connaissait sa mission, et ça, ça lui a donné l'assurance et la motivation pour faire ce qu'il avait fait. Et si tu veux un titre pour un message de ce matin, c'est « Ne laisse pas ton cadeau dans la voiture ». Et tu vas me dire, oui, Jésus connaissait ce pourquoi il est venu, et c'est normal. Mais j'aimerais nous poser une autre question ce matin. Une question qui nous concerne, qui te concerne, qui me concerne. C'est celle-ci. Pourquoi suis-je venu ? En d'autres termes, quelle est la raison de mon existence ? Pourquoi est-ce que je vis ? Quel est mon appel ? On se pose cette question. Souvent, on se dit pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis ici sur Terre ? Pourquoi est-ce que le plus grand nombre des livres chrétiens aujourd'hui qui sont populaires, ce sont les livres qui parlent du sens de notre vie, de notre raison d'exister ? Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette... ce développement personnel, se rechercher, etc. C'est normal. C'est parce qu'on veut comprendre pourquoi on est ici. Pourquoi on est ici sur Terre. Pas vous ? Moi, j'ai envie. Et c'est normal. J'aimerais vous suggérer une chose ce matin. C'est que la mission de Jésus, c'est aussi ta mission. Sa mission, c'est ma mission. Sa mission, c'est notre mission. Bien sûr, Jésus savait pourquoi il est venu. Il est venu mourir, on l'a entendu, hein, Francine l'a bien expliqué, à la croix. Et heureusement, ça veut dire que ce n'est pas ça notre mission. Nous, on n'a pas besoin d'accomplir ça. Jésus l'a déjà fait, heureusement. Mais pour comprendre notre mission, il nous faut comprendre quelle était la mission de Jésus. Amen. Et Jésus a dit pourquoi il est venu. Et la raison pour laquelle il est venu, ce sont les raisons de notre existence. C'est les mêmes raisons de ton existence. Alors, c'est important qu'on puisse définir finalement quelle était la mission de Jésus. Luc 4, 43. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Il y a une grande assurance dans les propos de Jésus. Il faut aussi que j'annonce. Il sait pourquoi il est là. Il n'y a pas un sentiment de rejet, il n'y a pas un besoin de chercher à être accepté, comme moi j'ai essayé de se conformer pour être avec les autres et puis qu'on n'ait pas un regard différent. Non, lui, il savait pourquoi il était là. Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle. Lui, Jésus, il n'a pas laissé son cadeau dans la voiture. Il savait pourquoi il était venu. Et vous savez, il n'est pas venu sous la forme du grand roi que le peuple attendait. Il est venu sous la forme de l'ignorance du petit bébé. À 12 ans, il est dans la synagogue en train de parler avec une autorité. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Ce n'est pas ça qu'ils cherchaient quand ils attendaient un roi. Les Juifs, ils attendaient, c'était un roi qui était puissant, fort, un peu à la manière de Saül, le premier roi d'Israël, quelqu'un qui avait une stature, quoi, quelqu'un qui pouvait démontrer, qui avait une capacité d'amener une armée. C'est ça qu'ils attendaient. Mais Jésus, lui, il n'avait pas mis son assurance là-dedans. Il savait qu'il était envoyé de Dieu. Il avait cette assurance déjà. La mission de Jésus est notre mission. Jésus, s'étant approché des disciples, il leur parlait ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'on va enseigner ? Ce que Jésus a enseigné. Avec quelle autorité ? Avec la même autorité qui a été donnée à Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Les amis, ce n'est pas une mission qu'on fait tout seul. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est un partenariat. Sa mission, c'est notre mission. Mais vous savez comment on appelle ce passage qu'on vient juste de lire dans Matthieu ? On appelle ça la grande commission. La co-mission. C'est un partenariat, les amis. C'est ensemble qu'on fait ces choses-là. C'est une co-mission. On n'est pas seul. Pardon. Et si je dis ça, c'est parce qu'en fait, on peut passer sa vie, nous, sur Terre. Et peut-être que certains d'entre nous sont là et disent « Ah, j'aimerais tellement savoir mon appel, j'aimerais tellement savoir ce pourquoi je suis fait. J'ai envie de connaître. Est-ce que je suis là sur Terre pour être un plombier ? Est-ce que je suis là sur Terre pour être un facteur, un acteur, un professeur, un athlète, un pasteur ?» etc. On se pose ces questions. Et en fait, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est juste la raison pour laquelle Jésus est venu, puisque sa mission, c'est notre mission. Je vous dirai un petit peu plus après sur moi. Enfin non, je vais vous le dire maintenant. En fait. Mais quand j'étais, je vous l'ai déjà dit souvent, quand j'étais plus jeune, je manquais énormément d'assurance. Et parfois, j'ai encore ces traces-là sur certains domaines. Mais au début, je voulais être cuisinier. Cuisiner 3 étoiles, et puis après, je me suis rendu compte que c'était trop de contraintes et tout. Non, je n'ai pas fait serveur non plus. Mais j'ai essayé après, je me suis dit non, je vais me diriger vers gérant d'hôtel. Et puis, non, ce n'était pas ça. Et après, j'ai travaillé, j'ai voulu faire la banque. Et en fait, avant ça, je pensais plutôt même à l'idée de devenir financier au Luxembourg parce que ça m'attirait. Un de mes rêves, je vous l'ai déjà dit, mais c'était de vivre dans un grand appartement. Un peu, vous imaginez les beaux et grands appartements avec des hauts plafonds, des moulures sur les plafonds, plafonds 3 mètres, hein, etc. Des grandes salles, des grands couloirs, des beaux meubles en bois taillés, etc. Avoir des cigares, à pouvoir m'allumer, à pouvoir vivre la belle vie, quoi, clinquante, etc. Ça me plaisait. Avec un ami, on poursuivait ce même rêve. Lui, il a continué, moi, j'ai arrêté. À un moment donné, le Seigneur, il a dit, c'est pas pour toi, ça. Vous pouvez rire, mais c'est voilà, on a ce genre de rêve. Et même, un secret, un jour, j'ai participé à un casting de la Nouvelle Star. C'est vrai, je vous l'avoue. Quelqu'un d'autre a déjà fait un casting de la Nouvelle Star ou un truc comme ça ? Ah, c'est top, faut le faire, les amis. J'ai pas été très loin, mais je l'ai fait. C'était tellement bizarre. Mais vous savez, un jour, le Seigneur, à travers plusieurs moments, parce qu'avec moi, il faut de la douceur, il faut de la patience aussi. Et le Seigneur, heureusement, il est patient. Et à travers plusieurs choses, il a commencé à travailler mon cœur. Différentes personnes autour de moi, différents contextes, etc. Il a commencé à déposer dans mon cœur des paroles. Un moment, ça a été, il m'a parlé à travers Ésaïe 58 et il m'a dit que ce qu'il attendait de moi, c'est que je sois un réparateur de brèches. Et puis plus tard, à travers différentes choses, il m'a guidé en fait vers le pastorat. Et vraiment, ce que j'ai compris, en fait, au-delà d'être pasteur, c'est pas mon appel. Hein. Vous savez, si demain Dieu me retire pour que je sois plus pasteur, c'est pas un problème pour moi parce que c'est pas mon appel. Je vous choque un peu, hein, peut-être ce que vous voulez dire. Mais parfois, on est là dans une fonction, etc. Non, ce que le Seigneur veut de moi et ce qu'il a mis sur mon cœur en premier, c'est d'être un artisan de paix. Et c'est ça que je suis au plus profond de moi. Et je peux être un artisan de paix ailleurs que dans la position de pasteur. Ce n'est pas un problème pour moi. Je ne tiens pas à une fonction, à un poste, etc. Mais ce qu'il a mis fort sur mon cœur, c'est Matthieu, ce que toi tu es un artisan de paix. Tu es là pour cette raison-là. Et en fait, le Seigneur m'a encouragé l'autre jour, parce que je cherchais, quand je faisais ce message, à même l'écrire, cette chose-là. Et en fait, ce qui m'a encouragé à écrire, c'est que je suis, moi, Matthieu, appelé à conduire les gens à vivre en paix avec Dieu, avec eux-mêmes et avec les autres. Et ça, c'est une phrase qui finalement résume, qui dit ce que je suis, qui englobe ce que je suis. Et ça, ça définit ce que je suis. Et ce matin, ce que j'aimerais à la fin de ce message, c'est que vous soyez encouragés à faire de même. À travers ce que vous entendrez de Jésus, à pouvoir vous poser et en quelques mots dire « voilà ce que je suis, voilà quelle est la raison de mon existence. Ce n'est pas mon métier. » Ça peut l'être, pour certains, oui, je ne le dis pas, mais qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi de particulier, de profond pour son royaume. Amen. Ça vous dit? Je l'ai bien vendu? Jésus connaissait son identité et sa mission. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva, c'est de Jésus qu'on parle, et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier, Marc 1, 35. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche quand ils l'eurent trouvé et lui dirent « Tout le monde te cherche. » Je m'arrête là-dessus parce que j'aimerais bien qu'on comprenne vraiment ce qui est en train de se passer. Jésus est à l'écart, il sait, il est en train de chercher auprès du Père, il sait que c'est lui qui va lui donner ce qu'il doit faire. Et là, il y a la foule autour. Il y a les gens qui lui disent, il y a les gens qui viennent te voir et qui veulent te voir et tout. Et heureusement, Jésus, il n'a pas fait comme moi. Il n'a pas essayé de se conformer, de satisfaire la foule, etc. Regardez ce qui se passe après. Il leur répond ainsi, allons ailleurs. Il y a tout le monde qui te cherche et Jésus dit, allons ailleurs. Leur répondit-il, dans les villages voisins, il faut que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. Il connaissait son identité et connaissait sa mission. Il n'avait pas besoin d'être là. Et vous savez, quand on me parle de pasteur, et je vais peut-être embêter Bastien, non, je rigole, mais je sais que ma mission première aujourd'hui, c'est d'être pasteur ici. Et du coup, je sais que mon ministère, c'est d'abord auprès de vous, auprès de la famille ECP. Alors c'est vrai que quand il y a des gens d'autres églises ou d'autres endroits qui me demandent « est-ce qu'on ne peut pas prendre du temps, j'ai besoin, etc. » Là, j'ai besoin de prier, de savoir est-ce que c'est bon de faire ça. Parce que ma mission première, c'est auprès des gens de CP. Et c'était important, je le redirai plus tard, mais c'est important de savoir auprès de qui aussi on est appelé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des autres, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est important de connaître ça. Ça sera un de mes points d'ailleurs tout à l'heure. Je vous fais des petits bribes en avance. C'est pour cela que Jésus est venu. Alors, trois choses qui sont importantes à connaître pour chacun de nous. C'est important de connaître sa mission. Dieu l'avait envoyé prêcher le message de la bonne nouvelle. Alors, Jésus, il est allé pour faire cela. Regardez encore. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Quand on se lève le matin, c'est important d'avoir une motivation, de connaître sa mission. Si je sais qui je suis et ce pourquoi Dieu m'envoie, alors je peux être motivé à mon lieu de travail. Je peux être motivé pour aller auprès de mes collègues, dans mon école, si je sais qui je suis, si je sais ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Pas vrai? Et c'est parce qu'il savait cela qu'il était motivé, le Seigneur Jésus. Et je trouve que c'est vrai, c'est tragique quand on se lève le matin et qu'on va au travail juste parce qu'il faut de l'argent ou il faut payer les factures. Vous ne trouvez pas ça dommage? Moi, j'aimerais qu'on soit des gens qui aient quelque chose qui les motive. Je ne dis pas qu'il faut changer de travail. Hein. C'est bien plus souvent dans nos têtes et dans notre façon de voir les choses qu'il faut changer les choses. Mais quelle est cette motivation? Quel est ce que le Seigneur t'appelle à être, à faire? Peu importe ton travail, peu importe le lieu dans lequel tu vis, le Seigneur nous a envoyés chacun de nous. Et Dieu, il nous a donné un cadeau. Dieu il nous a donné un don à apporter dans le milieu là où il nous a placés. Alors il ne faut pas qu'on l'oublie dans la voiture. Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors quelle est notre mission? C'est sa mission. Le Père a envoyé Jésus, Jésus nous envoie. C'est exactement la même. Et s'il dit « Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est un sujet de motivation. Allez! La deuxième chose qu'on voit dans le verset qu'on a cité avant, c'est que c'est important de connaître son cercle. C'est ce que je vous disais avant. Jésus, il savait qu'il allait prêcher aux Israélites. C'est pour ça qu'il allait prêcher dans les synagogues. Il allait dans les synagogues. Et regardez, Matthieu 15, 24. Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. » C'est dingue quand on y pense. Et son rôle premier à Jésus, parce qu'après on va me dire, oui, il a parlé à la Samaritaine, il a parlé, etc. Oui, ce que Jésus veut dire, son rôle premier, c'était, j'étais envoyé pour cela d'abord. Je suis focus, je sais me concentrer sur la cible, sur ce pour qui Dieu m'a envoyé. C'est important que nous connaissions aussi notre cercle, la sphère d'influence, l'endroit où Dieu nous place, qu'on ait une idée de cela. Parce que sinon, on peut s'éparpiller rapidement. Et alors, soyons pas étonnés quand on voit que Jésus dit « Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » La mission de Jésus est la mission qu'il a confiée aux disciples. Maintenant, qui est content, comme moi, que ça ne soit pas arrêté là? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de juifs ici. Non? Mais heureusement, non, ça ne s'est pas arrêté là. Acte 1-8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'à Wissembourg, jusqu'à Oswald, jusqu'aux États-Unis, jusque là où Dieu vous a placé, jusqu'aux extrémités de la terre. » Avec le Saint-Esprit, Dieu nous envoie. Est-ce que vous me suivez? Il nous a envoyés. Et vous savez, il y a des questions que je ne me pose plus. Avant, je priais, est-ce qu'il faut que j'aille prêcher à la... ou est-ce qu'il faut que je passe du temps avec cette personne, etc. Avant, je priais pour ces choses-là. Aujourd'hui, je ne prie plus pour ces choses-là. Non, je suis un artisan de paix. C'est ce que Dieu a fait de moi. Il m'envoie, donc je sais que c'est ce que je dois faire. D'amener les gens à vivre en paix avec Dieu, avec eux-mêmes et avec les autres. Donc dès qu'il y a une situation qui se présente et qui répond à ça, je sais que le Seigneur m'a missionné pour ça. Je n'ai plus besoin de prier. On peut passer sa vie à prier pour les mauvaises choses. Alors que si le Seigneur nous a missionnés, allons-y, faisons-le simplement. N'attendons pas encore une nouvelle révélation. J'aurais besoin de prier, par contre, si on me demandait, « Matthieu, est-ce que tu veux apporter une parole à la librairie Intel ?» Ça ne sera pas une parole, mais ça sera plutôt une conférence sur comment vivre bien organisé. Là, je vais me dire, « Ok, ça ne répond pas à ma mission. » Donc là, je vais prier d'abord pour voir si le Seigneur veut que je fasse ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais des fois, on prie pour la mauvaise chose. Alors, c'est important de connaître sa mission. C'est aussi important de connaître son cercle, l'endroit où Dieu nous veut, l'endroit là où il nous a placés. Amen. Et c'est aussi important de connaître son autorité et son pouvoir. Jean 8 nous dit, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Il savait d'où il venait, connaissait d'où il avait la puissance, d'où il avait l'autorité. « Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Vous savez, si je prêche ici, ce n'est pas par moi-même. Moi, en moi-même, je n'ai aucune autorité. J'ai aucun droit même, vous allez dire. À la limite, vous m'écoutez, vous êtes bien gentil. Mais ce n'est pas de moi-même, mais je ne vais pas m'excuser non plus. C'est parce que je sais que Dieu m'a envoyé et je sais que Dieu m'a établi ici pour apporter ce matin ce message. C'est pour ça que je peux prêcher avec assurance. Mais si je comptais que sur moi, non, il y aurait un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est la même chose pour toi. C'est exactement la même chose pour toi. Ne laisse pas ton don, ton cadeau dans la voiture. Regardez, Jésus nous a confié une autorité. Luc 9, Jésus réunit les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les malades. Le pouvoir, c'est la capacité de le faire. L'autorité, c'est le droit de le faire. Il nous a donné cela. En Jésus-Christ, tu as le pouvoir et tu as l'autorité. Tu as une mission sur ton lieu de travail, dans ton école, au milieu de ta famille, de tes voisins. Si tu connais ta mission, si tu connais ton cercle, si tu sais de qui tu as ton autorité et ton pouvoir, alors tu es déjà armé pour pouvoir faire ce que Dieu veut pour toi. Ça va ? Ça vous aide ? Sa mission, c'est notre mission. Tu peux marcher avec assurance du coup, savoir qui tu es, et avec une motivation et avec une autorité. Et il est possible, tu sais quoi, que tu ne ressembles pas exactement à la personne que les gens attendent. Mais ça, ça a peu d'importance. Il suffit que tu sois, finalement, celui que Dieu a envoyé, que tu saches qui t'a envoyé, qui t'a donné une mission, qui t'a envoyé dans ce cercle-là, dans cet endroit-là, et que tu es revêtu d'une autorité et d'un pouvoir. Et pour aller vers la fin de ce message, j'aimerais juste, pour nous aider, parce que je voudrais vous encourager à ne pas perdre ce matin ce qui va être donné, mais vraiment à pouvoir identifier quel est votre appel. J'aimerais vous donner 7 raisons pour lesquelles Jésus est venu. D'accord ? Voilà, les gens ils se disent, ouais, 7, on ne va pas être fini. Non, ne vous inquiétez pas, je vais aller vite. Mais 7 raisons pour lesquelles Jésus est venu. Parce que si on connaît ces 7 raisons-là, on va être inspiré pour nous aussi savoir et se calquer sur la mission de Jésus et savoir pourquoi nous on est là. Ça va ? Ok, on va y aller. La première raison, c'est pour accomplir un mandat. Jésus, ne vous inquiétez pas, ceux qui copient, vous aurez de nouveau la diapo, vous les verrez après. Jésus, donc, on l'a vu tout à l'heure ce passage, Pilate qui dit « Es-tu donc roi ?» Et Jésus lui dit « Tu le dis toi-même, je suis roi, je suis né, et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Est-ce que je peux simplement nous suggérer que c'est notre mandat également de rendre témoignage à la vérité ? Et de ne pas laisser notre cadeau dans la voiture, mais partout là où on est placé, partout là où on va, que nous soyons aussi des personnes qui rendons témoignage à la vérité. À Corinthiens 3, 5 également nous dit « Après tout, que sont donc Apollos et Paul, des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière qui lui a été confié. Chacun d'entre nous a une tâche, une mission. La mienne, c'est d'être pasteur aujourd'hui. Je suis un artisan de paix. Quelle est la tienne ? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ? Comment Dieu te demande de briller dans ce monde ? Je ne te dis pas ce que ton père t'a dit que tu devais faire. Je ne te dis pas ce que ton expérience passée te demande de faire ou t'impose à faire. Je ne te dis pas ce que ton école, ton éducation t'a invité à faire. Qu'est-ce que Dieu te demande à faire ? On peut se perdre. Hein. Vous savez, j'ai fait une école hôtelière, ça n'a rien à voir ce que je fais aujourd'hui. Mais si j'étais juste dans cette idée d'éducation, ben je serais dans l'hôtellerie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ? As-tu accompli ta tâche ? Malheureusement, vous savez, parfois on peut passer à côté de ça. On ne rend pas témoignage à la vérité dans nos vies. On fait des choses, on passe à côté de qui est Dieu. Une deuxième chose pour laquelle Jésus est venu, il est venu indiquer ce qui est juste et ce qui est mauvais. Regardez Luc. Regardez Luc. 12, 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. Quand on lit ce passage-là, on se dit, c'est quoi ce truc ? C'est un peu louche. Vous savez, le malin est venu séparer la lumière de la lumière. Le malin est venu séparer les brebis des brebis. Le malin est venu séparer le bon grain du bon grain. Mais Jésus, lui, il est venu pour séparer la lumière des ténèbres. Il est venu pour séparer les brebis des boucs. Il est venu pour séparer le bon grain de l'ivraie. C'est ça quand Jésus dit « Je suis venu amener la division ». Il voulait reconnaître son peuple. Ça vous aide ? Jésus, il est venu pour ça. Le diable, lui, vient pour diviser. Mais Jésus, lui, la manière dont il vient diviser, c'est pour rendre les choses justes, pour indiquer ce qui est juste et pour indiquer ce qui est mauvais. De la même façon, nous aussi, on doit s'élever quand il y a du harcèlement, quand il y a des choses injustes que les gens vivent. On doit pouvoir s'élever et être là et se tenir debout et dire « Non, là, ce n'est pas bon ce que tu fais, mon frère. Là, ce n'est pas bon ce que tu, la manière dont tu agis. Voilà ce que le Seigneur réclame. Voilà ce qui est juste. » On ne doit pas tolérer le péché, les amis. On doit s'élever contre les injustices de ce monde. Quand quelqu'un est dans la pauvreté, on doit être une église qui est en mesure de se lever et dire « Non, ça c'est injuste. Voulons voir la restauration. Séparer ce qui est injuste de ce qui est juste. Séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. » On doit s'être saisi de la mission de Jésus-Christ, de la même façon que lui. Comprenez ce que je veux dire ? Alors ne tolérons pas le péché. Puis Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement. » Pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Comprenez ce qui est en train de se passer. Jésus vraiment sépare les choses. Je vais passer ça. Une troisième raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour servir. Ça, on le connaît bien, ce verset, Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu pour servir et c'est comme cela qu'on doit servir. Si on passe à côté du service, si on passe à côté de donner sa vie, on laisse notre cadeau dans la voiture. On n'est pas venu pour les raisons pour lesquelles on devait venir. Si tu viens à l'église, tu passes un bon moment dans la louange, que tu écoutes la parole, que tu profites des bons béniers à la fin du culte, et que tu repars, tu laisses ton cadeau dans la voiture. Je ne suis pas en train de suggérer qu'il n'y a que le dimanche matin un concert, le Seigneur. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une des opportunités. Mais je veux nous interpeller sur le fait que si on ne sert pas le Seigneur Jésus, ben on laisse notre cadeau dans la voiture. Jésus, lui, il est venu pour servir. J'avance vite fait. La quatrième raison, Jésus est venu chercher et sauver les perdus. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut celui qui était perdu. On a besoin d'être enthousiaste, les amis, au sujet des personnes qui ne connaissent pas Dieu. On a besoin d'avoir un allant, une passion pour les personnes qui sont perdues. Moi, je rends grâce à des gens comme Bastien qui viennent et qui me frictionnent parce que des fois, je suis dans mon confort, je l'avoue. Des fois, c'est plus simple pour moi d'être pasteur et d'être là d'abord à servir les personnes qui sont premièrement mon cercle, vous, l'Église, et je pourrais avoir tendance à m'endormir sur la deuxième mission, celle qui nous est aussi donnée à tous, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, d'aller chercher les personnes qui sont perdues. C'est important, les amis, qu'on ait une passion, qu'on fasse vraiment ce que le Seigneur nous a demandé, parce que lui, ce qu'il veut apporter, c'est la vie. Le voleur, lui, vient pour détruire, pour dérober, pour égorger. Mais le bon berger, Jésus, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il est venu pour nous sauver. Vous savez, ça me fait rire, mais peut-être que vous avez fait partie comme moi d'une église. Bon, j'étais beaucoup plus jeune et puis très, très religieux. Et mon père était aussi quelqu'un de très religieux à ce moment-là. Et en fait, il était anti-tatouage, il était anti-cheveux longs, anti-etc. Et, Et il y avait toute cette idée-là. Je ne suis pas en train d'entrer dans les détails, ce n'est pas là que je veux venir. Mais je veux quand même parler des cheveux longs, parce que moi, ça m'a fait rire. Mes frangins, en fait, ils ont tous grandi des cheveux longs parce qu'ils voulaient énerver mon père. Ce que mon père disait, c'est pas être un bon chrétien que d'avoir les cheveux longs. Aristide, t'es foutu. Mais vous vous rendez compte, ce que je veux dire, c'est que on peut être dans cette dynamique religieuse et de penser à des choses et être condamnant, en train de juger ici sur terre, d'être rempli d'impressions et de se dire « Ah, ça, c'est pas chrétien, ça, c'est pas bon, etc. Et » tout, et d'être nous-mêmes les personnes qui jugeons et condamnons les gens. Non, laissons ça à Dieu. On n'a pas à faire ça. Nous, on a à amener la vie. Jésus, il est venu pour que les gens aient la vie et qu'il ait en abondance. Laissons à Jésus le rôle de juger. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien le droit de dire, hein, les amis, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce qu'on doit être, c'est d'abord être rempli d'amour. Rempli d'amour pour ceux qui sont dans le besoin d'être sauvés, pour aller les chercher. Quand on voit des gens qui sont brisés, et vous en voyez certainement dans la rue, vous en voyez certainement même autour de vous, dans vos voisinages, etc. Quand vous voyez ces gens-là, soyez là pour les relever, les aimer. Ne les condamnez pas dans leurs péchés. Ça vous allez peut-être vous dire, mais tout à l'heure tu nous dis qu'il ne faut pas tolérer le péché. Oui, parmi les chrétiens, c'est important. Mais ne condamnons pas les gens dans leurs péchés. Soyons remplis d'amour, toujours avec une parole bienveillante, de douceur pour relever, pour encourager, pour accompagner, pour amener la vie, pas pour détruire. Ça, ce n'est pas notre rôle, les amis. Comprenez ce que je veux dire? Allons chercher les perdus. Allons chercher ceux qui ont besoin d'être sauvés. Une cinquième chose, c'est que Jésus, et celle-là, j'aime bien, parce qu'elle est un peu warrior comme ça, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. C'est 1 Jean 3, 8 qui nous dit ça. « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et vous savez comment on fait ça? Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous ne voulez pas oublier votre cadeau dans la voiture? Allez faire du bien, allez détruire les œuvres du diable. Allez encourager, allez aimer, allez guérir. Faites les œuvres de Dieu. Et c'est comme ça qu'on détruit les œuvres du diable. Une sixième chose, celle-là, elle est un petit peu moins sexy, c'est obéir. On n'aime pas obéir à son père. C'est plus difficile de parler de l'obéissance et de la soumission. Mais regardez Jean 6, 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il savait qu'il était là, Jésus, pour accomplir la volonté du Père, pour accomplir sa tâche. Et Jésus, il n'allait pas laisser son cadeau dans la voiture. Heureusement pour nous. Jésus, est-ce qu'il a toujours aimé la volonté du Père? Je ne pense pas. Quand il était âgé de ses manées, éloigne de moi cette coupe. Non, la volonté du Père, elle n'était pas toujours plaisante. Mais Jésus savait qu'il était venu pour cette raison, pour accomplir la volonté du Père. Et il savait qu'il lui fallait obéir et qu'il est venu pour ça. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. De la même façon, nous aussi, on doit faire ce que Dieu nous demande de faire, lui obéir. C'est nécessaire. La dernière chose que j'aimerais parler, la septième raison, c'est représenter le nom de Dieu. Jésus est venu pour représenter le nom de Dieu. Jean 5, 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Dans un autre passage, Jésus dit, « Celui qui a vu le Père m'a vu. » Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que les gens doivent être capables de voir Dieu à travers vous. Tout simplement. Quand on dit qu'on représente Dieu, ça veut dire que les gens doivent pouvoir voir sur toi, sur ta vie, Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu, pour représenter le nom de Dieu. Vous dites, ah, ça paraît un peu orgueilleux et tout. Non, c'est simplement une réalité. On est juste appelés et envoyés. Du coup, on peut être ses représentants, il n'y a pas de problème. Alors Jésus est venu, oui, pour accomplir un mandat, pour indiquer ce qui est juste, séparer, si vous voulez, ce qui est juste de ce qui est mauvais, pour servir, pour chercher et sauver les perdus, pour détruire les œuvres du diable, pour obéir à son Père, pour représenter le nom de Dieu. Je vais demander au groupe de louanges s'il veut bien s'approcher à nouveau. Les amis, quand on ne fait pas ça, on laisse notre cadeau dans la voiture. On oublie qui on est, on se conforme au monde, on fait les choses que tout le monde fait, mais on oublie qu'on a un cadeau. On a oublié que nous, on a reçu la vie de Jésus-Christ. On a oublié qu'il est mort pour nous, pour notre péché, pour nous sauver. Et quand on n'accomplit pas ça, quand on a oublié les raisons pour lesquelles Jésus nous a placés, Dieu nous a placés sur terre, alors on oublie notre cadeau dans la voiture, notre opportunité de faire la différence. Dieu m'a appelé, moi, à être un artisan de paix, à conduire les gens à vivre en paix avec Dieu, avec eux-mêmes, et avec les autres. À quoi est-ce que Dieu t'appelle? J'aimerais vraiment t'encourager à regarder à cette liste et à te dire, ok, Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles? Donne-moi les mots pour que je puisse les écrire et que je puisse me concentrer dessus. Parce que quand je connaîtrai ma mission, alors je serai motivé pour accomplir ce que je dois accomplir. Le matin, je me lève. Merci Seigneur pour la grâce de pouvoir encore aujourd'hui aller accomplir cette mission. Et si tu connais ta mission, sache que tu as l'autorité et le pouvoir pour l'accomplir. Pas parce que tu es capable en toi-même, mais parce que Dieu t'a donné le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu pour pouvoir agir. Il t'a donné le droit et la capacité pour pouvoir le faire. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il t'appelle? Dans quel environnement? Quel est le cercle dans lequel il t'a amené? J'aimerais ce matin qu'on prenne un temps pour prier, simplement pour conclure ce message. J'aimerais, si tu es là après ce message et que tu te dis « Ah, ça me challenge, j'étais un peu provoqué, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi dire. » J'aimerais qu'on demande ensemble au Seigneur de venir t'inspirer. Parce que les réalités, ce n'est pas que c'est venu comme ça pour moi. Hein. Bien sûr, des fois, on s'attend et on se dit « Seigneur, révèle-moi la chose et dis-moi, etc. » Non, la réalité, c'est que le Seigneur, il a déjà déposé des bribes dans chacun de nous. Et si tu regardes à toi, si tu entends ce que les gens disent de toi, ce que tu entends, ce que les gens reconnaissent de toi, alors tu sais déjà. Et je t'encourage à écrire ta mission. Je t'encourage à écrire ta raison d'exister. Je t'encourage à discerner auprès de qui tu es appelé afin de pouvoir être motivé, d'être rempli d'assurance. De ne pas arriver à la soirée, de te dire « Ouais, je vais être une lumière » et au final, de faire comme tout le monde. De te conformer, de bien boire, de ne plus te rappeler de la fin de la soirée, d'oublier ton cadeau dans le coffre de la voiture. Parce que le Seigneur veut que tu fasses une différence. Le Seigneur veut que je fasse une différence. Le Seigneur veut que cette église fasse une différence. Alors si ce matin tu es challengé par ça, je t'invite simplement à te lever là où tu es. Peut-être simplement prendre temps. Ça peut peut-être être tout le monde, j'en sais rien. Mais simplement là où tu es et on va simplement ensemble prier. D'accord? Ça marche? Donc si c'est toi, je t'invite simplement à te lever pour que tu puisses prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu vois ces gens merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu les as établis et tu les as envoyés comme tu m'as envoyé, Seigneur Jésus. Merci parce que tu les as envoyés comme tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous te demandons la grâce, Seigneur, que tu nous donnes le discernement, Seigneur, pour que nous sachions, Seigneur, quelle est notre mission, notre raison d'exister ici sur terre, Seigneur. Merci parce que tu es venu avec une raison. Tu savais pourquoi tu es venu, Seigneur, et tu nous as communiqué pourquoi nous aussi nous sommes venus. Alors, Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous et explique-nous, Seigneur, quel est l'objet de notre existence, Seigneur, afin que nos matins, Seigneur, lorsque nous nous réveillons, Seigneur, nous ayons la motivation, Seigneur. Nous ayons, Seigneur, nous soyons emplis de toi, remplis de toi, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, ce que toi tu veux de nous, Seigneur. Qu'importe où ce soit, Seigneur, sur notre lieu de travail, dans notre école, dans notre voisinage, dans notre famille même, Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, et c'est là où nous avons l'assurance, Seigneur. Alors oui, Seigneur, je te demande, Seigneur, d'inspirer chacun, Seigneur. Inspirer chacun, Seigneur, et alors qu'on prend le temps de s'arrêter, Seigneur. Qu'on laisse pas ce message passer, Seigneur, et puis on l'oublie et on se dit, oui, j'ai été challengé, mais c'est OK, Seigneur. Et qu'on continue à se lever le matin, Seigneur, et à errer, et à se demander encore, mais pourquoi je suis là, Seigneur ? Qu'on puisse, Seigneur, être rempli de ce discernement et s'arrêter, Seigneur, et entendre ta voix au milieu qui nous dit, voilà à quoi je t'ai appelé. Voilà à quoi je t'ai appelé. Voilà à quoi je t'ai appelé, Jean-Yves. Voilà à quoi je t'ai appelé, Nadine. Voilà à quoi je t'ai appelé, Francine. Voilà à quoi je t'ai appelé, Nicole. Voilà à quoi je t'ai appelé, Mathieu. Voilà à quoi je t'ai appelé. Et mettez votre prénom, mais qu'on puisse entendre. Alors, Seigneur Jésus, c'est ma demande, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, tu viennes et tu nous fasses la grâce de discerner. De discerner, Seigneur, afin que la différence soit faite à travers nos vies, Seigneur. Afin que nous n'oublions plus notre cadeau dans la voiture, Seigneur Jésus, mais que nous l'apportions, Seigneur. Que nous l'amenions, Seigneur. Alors, Seigneur, oui, oui, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te demandons, Seigneur, vraiment d'agir maintenant.